On va évoquer maintenant, donc dans ces 5 minutes qui restent, comment la lexicographie d'aujourd'hui, dans ces nouvelles dynamiques, nous entraîne vers une autre manière de concevoir les dictionnaires. Tout d'abord, il est clair que c'est un phénomène pluriel que représente le dictionnaire aujourd'hui. Phénomène pluriel parce que de plus en plus, il s'oriente vers ce qui est synesthésique. Alors, il faut évidemment être un peu plus près, être plus clair quand on évoque ce qui est synesthésique. C'est l'idée qu'un dictionnaire, aujourd'hui, on n'est peut-être plus, dans les 10 années qui viennent, l'ouvrage dictionnaire de langue d'un côté, dictionnaire encyclopédique de l'autre, avec une scission qui fait du dictionnaire de langue celui qui ne fait que décrire l'usage de la langue sans s'occuper trop des références, et de l'autre côté, l'encyclopédique est tout entier du côté des références. Je donne un exemple simple pour les étudiants. Champignon, du côté d'un dictionnaire de langue, ça va nous donner, c'est à peu près le petit Robert, plante charnue qui pousse dans les endroits frais et humides, composée d'un pied et d'un chapeau. Une citation de Colette évoquant le fait de ramasser des champignons pour pas dire qu'elle les cueille, une autre citation, et puis quelques usages comme une cité champignon, appuyer sur le champignon. De l'autre côté, dictionnaire encyclopédique, Petit Larousse par exemple, et vous avez végétal sans chlorophylle qui fait partie des thallophytes et les moisissures sont des champignons. Et puis un petit commentaire, et forcément la planche de champignons, avec les gros problèmes que ça a pu poser en 91, dont vous vous souvenez peut-être, où celui qui était chargé de porter d'un bureau à l'autre la planche de champignons avec la pastille comestible et la pastille donc vénéneux, a trébuché, les pastilles sont tombées, il les a remises comme il a pu. Et on a vendu un dictionnaire criminel, puisque le dictionnaire du crime parfait, puisque effectivement, il y a eu un certain nombre de volumes, une dizaine de milliers, la première fournée, hein, où les champignons vénéneux étaient comestibles, et les champignons comestibles vénéneux. Ça a coûté une fortune à Larousse, qui s'est empressé de renvoyer le coupable, mais que faire de plus? Et puis qui a permis de payer beaucoup d'étudiants pour aller remettre des pastilles dans les librairies et coller de manière indélébile les bonnes pastilles. Donc on a là, juste une anecdote, j'évoquais ça à Québec, à Montréal plutôt, et dans l'assistance, je vois une personne qui d'un seul coup me dit, oh, je la vois s'affoler, et donc à la fin de la conférence, elle vient me voir, et je lui dis, vous l'avez peut-être ce dictionnaire? Elle me dit, mais oui, je savais en plus qu'il était très dangereux, et figurez-vous que je viens de déménager. Et je l'ai donné. Donc, il y a comme ça un dictionnaire mortel qui circule. Et donc, elle en était affolée. Mais j'ai dit, c'est trop tard, vous auriez dû me le donner. Moi, j'aimerais bien l'avoir, ce dictionnaire-là. Donc, oui, synesthésique, c'est-à-dire que on ne peut plus imaginer dans le dictionnaire de demain que j'ai le verbe striduler pour la cigale sans que j'entende cette cigale. Que j'ai le verbe, que j'ai le mot violon, sel, ou violon alto, sans que j'entende le violon alto. Que j'ai le mot écluse, et que je n'ai pas une image en mouvement qui me montre l'écluse. Et je le mets là dans ce livre que j'avais écrit sur les dictionnaires. Quand vous trouvez dans le Robert 2005, pour la définition du poinçon dans une charpente, pièce verticale d'une ferme reliant l'entrée au faîtage sur laquelle s'appuient les arbres et les étriers. C'est pas mal, mais tout à fait entre nous, si je ne sais pas ce qu'est un poinçon, si je ne sais pas ce qu'est l'entrée, terraïté, le faîtage, les arbres et les étriers, je ne suis pas très renseigné. Et je vous assure que si vous allez chercher arbres et les étriers, vous avez de nouveau toute une circulation, et sans illustration, je ne peux pas comprendre ce mot. Alors Josette Rédebove était absolument opposée à l'illustration dans les dictionnaires, mais pour certains mots, ça rend la définition, pour ainsi dire, impossible. Hein, et donc ça, sur Internet, le public n'en veut plus. Le public aujourd'hui n'est plus dans le dictionnaire sous-pesé. Il a d'un côté le dictionnaire papier, il y en a un avec des images, l'autre qui est avec du texte. Il est devant un écran et il veut la réponse à sa question. Et il ne comprend pas qu'on ne lui mette pas une image. Il ne comprend pas qu'on ne lui mette pas quelque chose de précis. Je vais vous dire ce qui se passe de temps en temps quand je consulte le petit Robert sur CD-ROM. Sur papier, ça ne me choque pas. Je vois un mot, il y a trois lignes de définition, une citation. Bien, ça me suffit, c'est coincé entre deux gros articles. Ça ne me pose pas de problème. Je l'ouvre sur mon CD-ROM, sur mon ordinateur, et j'ai un écran plein, là, une pleine page, j'ai trois petites lignes qui se battent en duel en haut. Et au début, systématiquement, je me disais, mais c'est pas possible, ils en ont enlevé, ils ont pas tout mis, parce que je suis habitué à avoir une information sur une page entière, pas sur trois lignes en haut avec un énorme blanc. Et en réalité, on voit bien que l'espace électronique a totalement changé la donne. Que, alors, d'une certaine façon, je vais essayer de conclure là-dessus, les paramètres ne sont plus du tout les mêmes. Si on cherche quels sont les paramètres, c'est sans doute le paramètre non plus de la quantité. La quantité, on peut l'avoir à foison sur Internet. Donc, c'est plutôt le paramètre de l'organisation de cette quantité. Il faut que j'ai une page avec l'hypertexte et que je puisse, finalement, en décloisonnant les informations, passer de l'information en langue à l'information en encyclopédie, à l'illustration, à l'histoire du mot et à d'autres choses. C'est ce que je demande. Et c'est ce que les dictionnaires doivent essayer de prendre en compte et qui sont en train d'essayer de travailler. L'autre paramètre, c'est le paramètre du temps. Puisque là, quand je consulte sur Internet, je dois aller vite. Tu avais fait un formidable exposé sur un dictionnaire pratique, rapide, je me souviens, à la journée des dictionnaires bilingues. On veut aller vite à l'information. Donc, si vous voulez, quand j'ai un article qui fait, comme dans le TLF, sur accent grave, 28 pages, ça ne me va pas du tout sur Internet. Je ne veux pas consulter 28 pages pour avoir ma réponse. Donc, il faut que je l'organise autrement. Il faut que j'ai, si vous voulez, des hypertextes, l'essentiel, puis après, je peux aller plus loin, puis encore plus loin. Donc, c'est un autre paramètre, c'est le temps d'accès à l'information. Autre chose, je ne supporte plus, dans un dictionnaire sur écran, d'avoir une information qui date d'il y a 10 ans ou d'il y a 2 ans. Sur un petit Robert, je regarde la date. Quand je dis, avez-vous le petit Robert? Oui. De quelle date? Ah, 82. Bon, il y a eu une grande refonte en 93 et tous les ans, il change. Vous avez le petit Larousse, oui, quelle date? Alors ça, mon oncle, c'était le bouquet, il avait 1910. Il dit, on consulte le petit Larousse en permanence. Je regarde son petit Larousse, 1910. Je l'ai tout de suite pris d'ailleurs, et je lui en ai offert un neuf. Mais, c'est, on voit bien que là, sur Internet, ce n'est pas possible. J'ai besoin de l'information immédiate. Donc il y a de nouveaux réflexes lexicographiques qui sont à mettre en route. Et je vais conclure là-dessus. Je suis allé il y a quelque temps donc rencontrer Catherine Lucet, qui dirige les éditions Le Robert, Nathan, Bordas, et qui chapeaute donc les directions, puisqu'il y a une directrice aussi chez Robert, et où je suis resté 2 heures avec elle pour parler de l'avenir des dictionnaires. Et ils sont tout à fait conscients que c'est en ce moment, depuis 2 ans, une chute considérable. Pourquoi? Parce que les 10% qui l'achèteront toujours, c'est vous. C'est les écrivains, les journalistes, ils auront toujours le dictionnaire papier ou le CD-ROM. Bon. Mais les 70%, ce qui peut vous surprendre, qui achetaient le petit Robert, mais parce qu'il leur semblait que c'était mieux, mais qui ne savaient pas bien s'il y avait des noms propres ou non, qui ne voyaient pas bien la différence à part l'illustration avec le petit Larousse. Et c'était quand même 70% des personnes. C'est mon ami dentiste à côté de chez moi qui un jour me dit, tout cultivé qu'il est, me dit, mais dans le petit Robert, pourquoi il n'y a pas les noms propres, au fait, bon, etc. Donc il ne fait pas la différence avec le petit Larousse et le petit Robert. Ces 70%-là qu'il achetait, qui étaient le gros du public quand même, et qu'il avait sur le coin de la table ou à côté de la télévision, et qui s'en servait pour vérifier une orthographe, pour vérifier le sens d'un mot, c'est fini. C'est sur Internet, tout le monde ayant quasiment Internet dans les foyers français, eh bien, on consulte Google et puis on se retrouve sur Wikipédia pour l'encyclopédie. Et qui va voir que Wikipédia est plein de plagiat, il y a pas mal d'erreurs? Peu. Et puis de toute façon, plus on avance avec Wikipédia, moins il y a d'erreurs. Ça s'améliore à grande vitesse. Hein, et donc, on voit bien qu'il y a là un véritable problème et que nos maisons d'édition sont en train de réfléchir à cela. Et moi, j'ai lancé une idée saugrenue qui a beaucoup plu à Catherine Musset. C'est la métaphore du métro filé. Je lui disais, dans le fond, un dictionnaire, C'est la carte de Paris, ou peut-être de Lyon, mais il n'y a pas beaucoup de stations. La carte parisienne du métro. Chaque station, c'est un mot. Alors, dans un dictionnaire comme le Petit Robert ou le Petit Larousse, il y a 60 000 stations. Et à chacune de ces stations, que demande-t-on au métro? De pouvoir entrer dans la rame, qu'elle soit à l'heure, qu'il n'y ait pas de grève, et que, en définitive, on puisse aller à un autre mot. Il se trouve que dans la station, il y a des publicités, à droite, à gauche. Eh bien, d'une certaine manière, elle ne nous gêne pas, pourvu qu'on puisse consulter le mot et qu'on puisse entrer dans le RER. Et c'est évidemment, et ces publicités, elles changent tous les 8-10 jours. Et je lui ai dit, dans le fond, à chaque mot, vous pouvez donner gratuitement le petit Robert, donner gratuitement le petit Larousse, conserver une équipe de lexicographes solide, indépendante, totalement du monde de l'entreprise et de la publicité, qui fasse son travail, mais rien ne vous empêche d'avoir en quelque sorte de petits placards publicitaires de temps en temps qui apparaissent. Et j'ai dit ça parce que je venais de faire un abécédaire sur les mots du cancer. Et dans cet abécédaire, bien sûr, il y a des mots difficiles. Et puis les mots techniques, les mots de médecine changent tout le temps. Et les dictionnaires papier me donnaient peu de choses. J'ai donc beaucoup consulté sur Internet. Et c'est vrai que j'ai consulté des articles très sérieux de grands professeurs de médecine. Et de temps en temps, je voyais apparaître une petite publicité pour tel médicament ou tel produit, etc. Ça ne me gênait pas, l'information savante était là. Donc voilà comment je crois que nous sommes en train de vivre une métamorphose profonde des dictionnaires. Et ce que j'espère avoir peut-être essayé de montrer, c'est que de ces techniques dépendent aussi la présentation des contenus. Ce qui doit rester et restera, c'est la solidité des savoirs, la solidité des recherches, la fiabilité de ces recherches et l'enthousiasme. Et moi, je reste très enthousiaste quant au dictionnaire. Peut-être que les jeunes qui n'achètent pas de dictionnaire n'ont jamais autant consulté de manière alphabétique ou consulté sur Google toutes sortes d'informations. Donc simplement, il faut s'adapter. Voilà, j'aurais des milliers de choses encore à raconter, mais il faut s'arrêter. Et je vous remercie de votre patience.